Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Vous le savez, on le répète souvent dans cette émission, le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité. Si rien n'est fait, cette épidémie entraînera plus de 8 millions de décès par an d'ici 2030, dont plus de 80% surviendront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Mais arrêter de fumer reste difficile. Nombreux sont ceux qui essaient, rechutent, essaient à nouveau, puisque c'est si dur de décrocher. Un des objectifs de la dernière loi de santé en France consiste à éviter que les jeunes ne commencent. D'où l'idée de la mise en place des paquets neutres, sans marque apparente, pour éviter d'attirer de nouveaux consommateurs. Mais les buralistes multiplient les actions contre ce paquet neutre. L'industrie du tabac est aussi farouchement contre. Et on se dit qu'une telle mobilisation est peut-être une preuve de l'efficacité de cette mesure. Alors comment arrêter de fumer? Que penser entre autres par exemple de la cigarette électronique? Comment mieux lutter contre l'industrie du tabac? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, le professeur Yves Martinet, qui est président du Comité national contre le tabagisme, il est pneumologue au CHU de Nancy, et Sylviane Rath, qui est conseillère technique pour l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. On attend vos questions, vous êtes déjà d'ailleurs nombreux à nous avoir appelés au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Bernard Coffin-Goran, qui est professeur de pneumologie au CHU de Cocody, en Côte d'Ivoire. Professeur Yves Martinet et Sylviane Rath, bonjour.
Bonjour.
Sylviane Rath, quand on voit cette mobilisation contre le paquet neutre, ça intéresse. On se dit, mais c'est peut-être que ça marche, cette histoire-là.
Ah, c'est qu'on est presque sûr. C'est pas qu'on est presque sûr, c'est qu'on est complètement convaincu que ça marche.
C'est-à-dire que ça marche, ça empêcherait de nouveaux consommateurs.
Alors, ce qu'on sait, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de contrer l'utilisation du paquet comme outil de marketing. Donc la base, c'est ça. C'est l'industrie du tabac a utilisé le paquet, utilise le paquet comme objet de publicité.
Pour vendre.
Donc, vendre des univers, des noms de marques avec toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de reprendre la place sur le paquet pour donner de l'information sanitaire. C'est tout.
Et alors, un seul pays l'a mise en place, c'est l'Australie. Est-ce qu'on a déjà pu constater moins de nouveaux consommateurs?
Alors, on a eu des baisses de consommation. On a aussi, dans les études qualitatives, on sait que ça change l'image du produit. C'est-à-dire que les gens qui sont interrogés disent que ils sont moins attirés par ce paquet, ils se posent plus de questions sur qu'est-ce que ça contient et ils ont une véritable information parfois pour la première fois. En fait, on se rend compte que les gens connaissent les dangers du tabac souvent seulement par le cancer du poumon ou ils ont des notions un petit peu vagues des maladies cardiovasculaires, mais ils ne savent pas que ça génère plus de 25 maladies, que 16 cancers sont liés au tabac. Ils ne savent pas tout ça. Donc le paquet neutre standardisé permet de donner une information variée à différents publics, et on sait que pour les jeunes, ça sera nécessairement la première étape. S'ils ont un paquet qui n'a l'air pas attirant, ça va pas être le même univers qu'ils essaient d'intégrer.
Donc l'Australie l'a déjà mise en place, la France essaye de le faire. Quels sont les autres pays qui sont intéressés par cette démarche?
Alors, en Europe, on a le Royaume-Uni et l'Irlande qui sont très avancés également au niveau législatif, comme la France. Et ensuite, on a la Norvège, on a aussi d'autres pays, la Turquie. Turquie réfléchit, de nombreux pays réfléchissent. Alors plus ou moins, ils se sont plus ou moins prononcés. Il y a une initiative de la ministre française en juillet dernier, rassemblant tous ces pays. Mais il y a aussi des pays qui ont commencé à tenter, en Afrique notamment. Et moi, je salue le Burkina Faso, très en pointe sur ce genre de choses. Le Burkina a essayé, mais a très vite vu ce que l'industrie du tabac faisait. Donc, on a eu une déferlante.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, là?
Alors, là, ils ont mobilisé. Alors, écrivent à tous les ministres. Mais ils ont mobilisé, pour la première fois, on l'avait pas vu, la Chambre de commerce des États-Unis pour venir faire du chantage en disant ça va faire écrouler l'économie, nous donnons des emplois, nous faisons partie de l'économie du Burkina. Et donc pour des raisons différentes, le Burkina a décidé d'attendre, de mettre des premières images, mais aussi pour suivre un homme, pour être dans le peloton avec un autre groupe de pays. Mais il pense continuer à y penser. Je pense qu'on verra au Burkina et dans d'autres pays francophones, notamment ce qui se passe, parce que le Tchad doit être salué aussi, a mis en place des avertissements graphiques sur 70% des paquets. Et donc, on a une évolution en Afrique qui est très positive.
Alors, ce projet d'introduction de paquets de cigarettes neutres en France fait partie du projet de loi sur la santé. C'est en navette parlementaire pour l'instant. Ça a été supprimé carrément en commission sur ce projet d'introduction de paquets de cigarettes neutres. Ça a été supprimé en commission sénatoriale. A priori, ça devrait être de nouveau proposé au Sénat, mais sous la forme d'un amendement par le gouvernement. Le Sénat le votera peut-être pas, mais ça passera à l'Assemblée nationale qui a quand même le dernier mot. Une réaction, professeur Martinet, par rapport aux sénateurs quand même,
Sénateurs ont un train de retard par rapport aux députés. Clairement, les sénateurs n'ont pas compris que l'objectif, comme l'a dit Sylviane Rath, c'est de casser le côté glamour du paquet de cigarettes. Et on se demande vraiment à quoi les sénateurs ont pensé. Il n'y a pas d'argument. Vraiment, ils n'ont aucun argument. Le seul argument, c'est de taper. C'est ce que fait l'industrie du tabac, puisqu'elle porte plainte contre l'Australie et que Bill Gates et puis Bloomberg ont créé un fonds. Vous vous rendez compte où on en est? D'abord, vous avez une ministre d'un pays comme la France, ministre de la Santé, qui se dit « Pour être fort, soyons unis face à une industrie ». C'est absolument impressionnant. Et puis, vous avez Gates et Bloomberg, comme je le disais, qui créent un fonds pour aider les pays qui, économiquement, n'ont même pas les moyens de se défendre contre l'industrie du tabac. Donc, on est dans un monde qui marche à l'envers.
On marche un peu sur la tête. On a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions à vous poser. On a Syrah qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Syrah, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute, Syrah.
Moi, j'aimerais arrêter... Vu le ravage que ça fait récemment, j'ai perdu quelqu'un, une proche, atteinte de cancer. Elle fumait, j'ai réussi à arrêter le tabac un mois, mais j'ai replongé un dimanche. Ma question est comment faire pour dominer et peut-être envie de fumer tout le temps, tout le temps.
Alors, si j'ai bien compris dans le message que vous aviez laissé à Ophélie au standard, c'est qu'en plus du coup, maintenant vous vous mettez à fumer en cachette, c'est ça?
Oui, je fume en cachette tout le temps. Et oui. Du coup, je m'en force à mes proches. Tout le temps, pour fumer, je me cache.
Oui, mais c'est très, très dur d'arrêter. Professeur Martinet, voilà une question que vous avez régulièrement en consultation.
Oui, et la réponse est toujours la même. C'est la nicotine est le produit addictif le plus puissant sur le marché des produits licites et illicites.
C'est-à-dire la dépendance au tabac est la dépendance la plus forte dans toutes les drogues qui existent.
C'est la dépendance la plus forte. Et clairement, par exemple, arrêter l'héroïne, je ne dis pas que c'est facile, mais arrêter le tabac, c'est beaucoup plus difficile. Or ça, c'est une notion qui n'est pas passée dans le public. C'est une drogue extrêmement dure. Donc, il faut... La première chose, c'est...
Pas culpabiliser.
ne pas culpabiliser et ne pas se démoraliser. C'est comme le vélo. On n'arrive pas forcément du premier coup sur le vélo, on tombe du vélo, eh bien il faut essayer à nouveau, refaire du vélo. Donc on essaye d'arrêter, on arrête, on tient quelques jours, quelques semaines, on rechute, c'est pas un problème, on apprend à ne pas fumer. Et malheureusement, pour certains, ça peut durer un an, deux ans, trois ans, mais au bout du compte, on finit par arrêter. Alors on peut bien évidemment se faire aider, et en particulier par les substituts nicotiniques. C'est exactement de la même façon que vous avez quelqu'un qui est dépendant de l'héroïne, vous lui donnez du Subutex pour que la personne ait moins envie de se droguer. Eh bien, c'est de la même façon, vous donnez des substituts nicotiniques aux fumeurs pour qu'ils aient moins envie de se droguer. Il faut appeler un chat un chat, c'est une drogue.
Et cette dépendance à la nicotine, elle dure combien de temps?
Eh bien, moi j'ai arrêté de fumer il y a plus de 30 ans, et je peux vous dire que la dépendance, elle persiste. Quand on a été fumeur et qu'on a été dépendant, on est dépendant toute sa vie, c'est-à-dire qu'on se rappelle toute sa vie Du sentiment de ce qu'on ressentait quand on fumait. Mais après, avec le temps, on arrive à gérer.
Je me rappelle d'un médecin qu'on a eu ici il y a quelque temps et qui nous a, je le voyais, mâchouiller de la nicotine. Il m'a dit, ah non, moi je peux vous dire, ça fait 5 ans que je mâchouille de la nicotine, mais j'ai arrêté de fumer. Donc ça m'est égal de mâchouiller de la nicotine. Est-ce que vous avez essayé justement, Syrah, la nicotine ou pas du tout?
Ben non, j'ai pas.
Oui. C'est peut-être une bonne idée ça, d'essayer avec ça.
Parler à un médecin aussi.
Et par... Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez essayé d'aller voir un médecin aussi, Syrah?
Ben non, j'ai pas les.
C'est le conseil aussi de Sylviane Rad. Ça vaut peut-être le coup d'essayer tout ça, d'essayer de nouvelles choses quand on réessaye d'arrêter de fumer.
Aussi, enfin,
oui, Sylviane Rad, oui, bien sûr.
Je pense que vous avez dit quelque chose qui m'a touchée. C'est que vous cachez pour faire ça. Mais peut-être si vous parlez aussi à vos proches et vous leur dites que c'est très difficile, que vous avez besoin de leur aide et de leur soutien, et que dès que vous avez une envie, vous allez plutôt vers les gens plutôt que de vous replier sur vous-même, peut-être que vous pourriez vous faire aider. Parce que les gens sont toujours prêts aussi à aider les gens en difficulté souvent. Donc moi, je vous conseillerais plutôt d'aller vers les autres et de dire, voilà, moi, je crois que je suis dépendante, aidez-moi quand j'ai des envies comme ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Syrah, et vraiment bon courage. Tenez-nous au courant si vous réussissez à de nouveau arrêter. On a Racine qui nous appelle de Bamako, au Mali. Racine, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute, Racine.
Ok, donc moi, j'ai commencé à fumer très tôt, à 16 ans déjà. Maintenant, j'ai 35 ans. Et je continue toujours à fumer. J'ai essayé souvent d'arrêter, mais à chaque fois, je n'ai jamais pu arrêter plus de 2 à 3 mois. Maintenant, j'aimerais savoir... Est-il vrai que commencer à fumer tôt augmente les risques de dépendance à la nicotine?
Oui, alors...
Professeur Martinet, oui.
Il est clair que le cerveau humain, il est mature pas avant 25 ans environ. Et plus le cerveau est exposé jeune à des produits qui entraînent des addictions... plus l'addiction est importante et plus ce sera difficile pour s'en débarrasser. C'est pour ça d'ailleurs que l'industrie du tabac essaye un maximum de cibler les jeunes parce que c'est à ce moment-là que le cerveau est le plus fragile et le plus sensible à la fois au marketing et à la drogue. Donc, mais maintenant, ce qu'il faut voir,
c'est
que...
Mais c'est pas une fatalité pour autant.
Voilà, c'est ça. Maintenant, vous avez 35 ans, vous êtes un peu plus âgé. Et vous avez des côtés positifs, vous avez arrêté pendant 2-3 mois, il faut réessayer, il faut recommencer. C'est, on n'y arrive pas du premier coup, ça c'est vraiment le message. Le message c'est rechuter, c'est banal, c'est normal, il faut réessayer et on finit par y arriver. C'est exactement comme si vous dites, tiens je vais faire de la varap, je vais montrer une paroi rocheuse. On n'arrive pas forcément à trouver la voie du premier coup, on recommence et après on finit par sortir par le haut.
Racine, je crois que vous aviez encore une question à poser.
Effectivement. Donc, j'aimerais savoir si fumer de la marijuana, par exemple, est-ce que c'est plus ou moins nocif que fumer du tabac?
Ce qui est nocif, c'est fumer. Après, ce qu'on met dedans, les effets psychologiques sont différents entre la marijuana et le tabac, mais les effets toxiques sur le patient, la personne qui consomme, sont à peu près de même nature. Alors, vous pouvez pas... Et ça, c'est clair. Vous pouvez pas vous dire, j'arrête de fumer du tabac, puis je vais me faire un petit joint le week-end. Non, ça, c'est pas possible, parce que le joint, vous le faites toujours avec du tabac, et puis avec un peu de
ce que vous mettez avec. Donc, quand on arrête, vous êtes en train de nous dire qu'il faut arrêter les deux.
Ah, il faut arrêter les deux. Ça, il n'y a pas de demi-mesure.
Voilà, donc bon courage, Racine. On a Sédou qui nous appelle de Ségou au Mali. Sédou, bonjour.
Bonjour, Claire.
Oui, on vous écoute.
Bon, j'ai fait 7 ans, je fumais. J'ai arrêté de fumer en 2004. Ma question est la suivante. Est-ce que ma santé est toujours en danger là?
Question très intéressante, professeur Martinet. D'abord, bravo, c'est doux d'avoir arrêté. Bravo. Depuis 2004, ça veut dire que ça fait 11 ans que vous avez arrêté. Donc, bravo. Est-ce qu'il y a toujours un danger 11 ans après?
Alors... au bout d'une dizaine d'années, les risques cardiovasculaires sont exactement les mêmes que quelqu'un qui a votre âge et qui n'a jamais fumé. Pour les risques de cancer, ils sont légèrement supérieurs, mais de façon très modeste. Donc, en fait, vous avez parfaitement bien fait. Vous avez arrêté, vous avez fumé pendant 7 ans. Vivez normalement et oubliez tout ça. Les risques sont anecdotiques.
Voilà, bravo, en tout cas c'est doux et merci beaucoup pour votre appel. On a Amaïbé qui nous appelle de Saveré au Mali. Amaïbé, bonjour. Amaïbé, est-ce que vous êtes en ligne? Alors, je crois qu'il y a un problème de ligne téléphonique. On vous écoute, Amaïbé. Vous êtes en direct dans Priorité Santé. Non, on a un problème de ligne téléphonique. On va essayer de vous rappeler, Amaïbé, parce que je sais que votre question est intéressante. Sylviane Rath, dans le projet de loi santé en France, Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, souhaite un monde sans tabac, souhaite l'apparition finalement d'une première génération de non-fumeurs d'ici 20 ans. Sylviane Rath, ça vous paraît possible, un monde sans tabac?
Alors, c'est évidemment l'objectif. Maintenant, pour arriver à cela, il faut voir comment on s'y prend. Quand on a, pour les pays, par exemple, en Afrique, parce que là, où la prévalence est faible, c'est envisageable assez tôt, parce qu'en fait, vous n'avez pas le nombre de personnes important qu'on a eu dans les pays occidentaux.
On est à combien encore en France? 30% de fumeurs,
30%,
c'est ça?
Oui. Donc là, on est et on a du mal, parce qu'on a déjà mis en œuvre pas mal de mesures, et on n'a pas beaucoup dans notre arsenal d'autres pistes pour essayer de faire changer les gens, et on a un nombre considérable de gens qui sont très accros. Donc ça, c'est plus difficile. Donc un monde sans tabac, oui, c'est un objectif. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'avec les moyens qu'on se donne en France, on y arrive très vite. C'est pas suffisant.
On se donne pas assez de moyens?
Non, c'est très insuffisant. C'est bien ce qu'on fait, la loi est bien, mais c'est très insuffisant au regard de ce qu'on fait, par exemple, les Australiens ou les Canadiens.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait de plus?
Bon, déjà, vous n'avez pas de moyens financiers pour cette lutte contre le tabac. Les associations sont sans moyens financiers. Elles œuvrent avec la bonne volonté de quelques-uns, et le corps médical en France n'est pas du tout impliqué, ou pas assez impliqué. C'est très faible comparé à d'autres pays comme le Royaume-Uni.
Manque de moyens pour le monde associé.
Manque de moyens, manque d'ensemble, de volonté d'ensemble, c'est-à-dire le corps médical, mais aussi l'ensemble de la société qui se mobilise sur ce sujet, et une fiscalité.
Une fiscalité. Il faut augmenter le prix du tabac de façon beaucoup plus importante.
De façon régulière, il faut une politique fiscale sur 15 ans qui s'ajuste avec une réduction de la consommation. Et si on n'a pas ça, on va pouvoir faire quelques progrès, mais on voit très bien, on revient en arrière. Il faut aussi des campagnes choc, des campagnes qui mobilisent vraiment les fumeurs pour qu'ils aillent chercher l'aide, et il faut l'ensemble de la profession médicale, enfin les professionnels de santé, qui soient associés et qui aident.
30% de fumeurs en France, combien en gros sur le continent africain en pourcentage, et combien en Australie?
Alors le continent africain, je peux pas vous donner une moyenne, parce que c'est vraiment très différent.
Pays.
Bon, on peut sur des pays comme le Tchad, le Burkina, on est aux alentours de 10%. Donc ça, c'est des faibles. Après, sur le Kenya et d'autres pays, on a des
un peu plus.
Après, il y a aussi les différences entre les produits fumés et les produits mâchés.
Et l'Australie qui a pris de nombreuses mesures.
Ils étaient à 17%, et le Canada, pareil, 16%.
Donc, par exemple, pour la France, on pourrait faire mieux.
Peut déjà, il faudrait réduire de moitié, quoi.
On a retrouvé Amaïbé de Saveré au Mali. On vous écoute, Amaïbé.
Bonjour Claire, bonjour docteur. Oui, j'ai fumé pendant 10 ans. Là, j'ai arrêté de fumer il y a juste 8 mois. Donc, j'ai toujours envie de fumer, toujours. Soit après un repas ou après un café.
Et vous vous demandez un peu comment ça se fait. En tout cas, bravo déjà d'avoir arrêté depuis 8 mois. Toutes nos félicitations. Alors, quand je vous entends le professeur Martinet dire que 30 ans après, il peut avoir encore envie de fumer, oui, c'est normal, cette envie, même 8 mois après.
Oui, c'est normal parce que dans la dépendance, on a dit que la dépendance, elle était puissante. Alors, il y a la dépendance à la drogue proprement dit, c'est-à-dire le produit, mais après, vous avez la dépendance psychologique et puis la dépendance comportementale. Et ce que dit Amaïbé est extrêmement intéressant parce que ça décrit bien la dépendance comportementale. Chaque fois que j'ai bu un café, j'ai fumé une cigarette. Donc chaque fois que je bois un café, le souvenir de la petite cigarette qui accompagnait le café est là.
Et alors on fait comment ?
Eh bien, il faut modifier ses comportements, ses habitudes. Au moins dans un premier temps, pour casser cette relation entre...
Ne plus faire le lien.
Et puis, voilà, le lien entre je bois un café. Et ça, c'est extrêmement... Par exemple...
Professeur Martinet, je vous interromps, mais on vous retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. On garde Amaïbé au téléphone.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des méfaits du tabac avec cette éternelle question. Comment arrêter de fumer? On en parle avec le professeur Yves Martinet, qui est pneumologue au CHU de Nancy. Il est président du Comité National contre le tabagisme. Et Sylviane Rath, qui est conseillère technique pour l'Union Internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Informations, on était en ligne avec Amaïbé qui est à Savéré au Mali, qui a arrêté de fumer il y a 8 mois, on lui a dit bravo et qui dit qu'il continue à avoir envie, et entre autres envie par exemple avec le petit café du matin ou le petit café après le déjeuner. Et vous disiez, professeur Martinet, on vous a interrompu avec les informations à ce moment-là, qu'il faut justement essayer de casser ses habitudes pour casser le réflexe qu'on a dans ces cas-là de fumer.
Oui, clairement, c'est la dépendance comportementale, c'est-à-dire que pendant un certain temps, quand on arrête de fumer, certaines personnes arrêtent le café et puis reprennent progressivement le café ou arrêtent le thé, ou bien on va dans une autre pièce où on se met pas dans son siège habituel à la cuisine, on change de place. C'est idiot.
Rien que ça, ça suffit.
Oui, ça aide à casser les habitudes.
C'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup à Maïbé et bravo à vous. On a Vincent qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Vincent, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tout le monde.
On vous écoute Vincent.
Voilà, ma question est celle de savoir comment arrêter de fumer quand on appartient à un groupe d'amis dans lequel tout le monde fume. Parce que je fais partie d'un groupe d'amis et dans le groupe de tout le monde qui fume, ils m'ont dit la question le plus souvent, me disent que Barma, il faut fumer, tout cela. Et puis je suis devenu ensuite...
C'est très intéressant votre question, Vincent. La pression des copains, la pression de l'entourage, Sylviane Rath, on fait comment?
Alors, on fait comment? Ben, moi, je vous propose, Vincent, d'être le leader dans ce groupe et de changer un petit peu ce qui se passe. Vous leur en parlez un petit peu à vos copains que vous avez envie de fumer, d'arrêter de fumer? Parce que moi, il me semble que vous êtes en bonne position pour essayer que tout le monde arrête ensemble, parce que ça sera vraiment très... On sait que les gens qui arrêtent avec d'autres ont plus de chances de s'arrêter. Donc, dites à vos copains que vous allez tous arrêter. Mettez l'argent que vous dépensez dans les paquets de cigarettes à faire quelque chose de sympathique ensemble. Alors, vous verrez, à vous de choisir.
On met de côté, puis au bout d'un mois, on fait une fête
ensemble.
Mettez,
vous faites une cagnotte, vous rassemblez tout cet argent et vous faites avec tous vos copains quelque chose de beaucoup mieux et pour votre santé et même pour vous divertir.
Et ça, c'est un de vos objectifs aussi, Sylviane Rath, de montrer que fumer finalement est ringard, c'est ça qu'il faudrait faire passer aux jeunes. C'est pas du tout branché, c'est ringard aujourd'hui de fumer.
Oui, en fait, l'industrie du tabac, je sais pas comment elle arrive encore à recruter des gens avec tout ce qu'on sait sur le tabac. En fait, les gens se font piéger, les jeunes se font piéger parce qu'on essaie de leur vendre un univers, on essaie de leur vendre quelque chose de glamour, mais aussi quelque chose qui soi-disant renfort et tout ça. Tout ça, c'est faux. Donc, essayez de discuter, Vincent, avec vos amis sur pourquoi ils font ça? Pourquoi ils fument? Essayez de poser la question entre vous et d'avoir une discussion en disant « mais c'est vraiment nul, quoi. On dépense notre argent pour se tuer ».
Voilà. Vincent, si vous arrivez à convaincre vos amis, en tout cas, vous nous tenez au courant, ça nous intéresse. On a au téléphone le professeur Bernard Coffin-Goran, qui est professeur de pneumologie au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire, spécialiste de l'asthme en Afrique. Professeur Bernard Coffin-Goran, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la consommation de tabac en Côte d'Ivoire?
Le tabagisme, qui est actuellement une pandémie, est marqué en Côte d'Ivoire par deux faits essentiels. Le premier qui vous concerne les chiffres, c'est-à-dire la montée inquiétante du tabagisme. Dans les années 70, donc il y a une trentaine d'années, au plan national, la prévalence était aux alentours de 10%. Et actuellement, nous sommes aux alentours de 22% au plan national. Mais ce n'est qu'une moyenne. On observe des variations très importantes selon les coûts sociaux, le sexe et la profession. Par exemple, chez les camionneurs et les ouvriers, la prévalence monte jusqu'à 40-42%. Et c'est inquiétant.
Et c'est plus les hommes que les femmes qui fument?
Ah oui, les femmes également ne sont pas épargnées. La gente féminine, on était à moins de 4% il y a quelques années. Actuellement, on est à 12%.
Et combien coûte un paquet de cigarettes aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Je pense la conversion. Bon,
ah oui.
En gros, 1 euro.
Combien? 1 euro.
Et puis souvent, oui, parfois c'est un peu plus, mais c'est beaucoup chez nous.
Oui, oui, 1 euro, mais...
Plus de 700, voilà.
Et la population ivoirienne a-t-elle conscience du danger du tabac? Le message commence à passer?
Voilà, selon les enquêtes et puis les rapports qu'on a avec les patients, ils ont une connaissance parfaite des méfaits du tabac. Mais le paradoxe, c'est qu'ils n'arrêtent pas, ils font des tentatives de sévrage individuel, mais le tabagisme continue, ils continuent le tabagisme.
Et qu'est-ce que vous faites justement, vous, pour aider au sevrage tabagique? Quels sont les moyens dont vous disposez? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher? Voilà, qu'arrivez-vous à faire?
Voilà, d'abord, j'ai commencé. D'abord, au plan politique, il y a une réelle volonté. Il y a une réelle volonté politique qui est marquée par des faits très sensibles. Il y a un programme national de lutte contre le tabagisme qui diffuse des messages, qui fait des affiches dans la ville, sous les grands axes routiers. Il y a une loi d'interdiction de fumer en public qui existait depuis 1979, qui a été réactivée, qui est suivie en grande partie. Et il y a également une réduction très importante de la publicité. Il y a quelques années, on voyait des panneaux un peu partout. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, au niveau individuel, à l'hôpital, malheureusement, nous n'avons pas de centre réel de sevrage anti-tabac. Mais individuellement, nous discutons avec tous les patients. Et là, en milieu pneumologique, c'est l'une des facettes importantes pour se rendre compte du tabagisme. Et individuellement, à chaque consultation, à chaque proche qu'on voit, on essaie de passer des messages sur les méfaits du tabac.
Et est-ce que justement, vous avez de plus en plus de gens qui viennent vous voir en disant « je voudrais arrêter de fumer, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ou ça ne rentre pas encore tellement, je dirais, dans les mœurs de se dire que ben, ça vaut peut-être le coup d'aller voir un médecin pour se faire aider?
De plus en plus, on en voit, mais en général, c'est au travers des consultations. C'est-à-dire au moment où ils font déjà, où ils développent la pathologie liée au tabac, malheureusement.
C'est ça, alors qu'il faudrait justement essayer d'arrêter avant d'avoir des problèmes de santé. Juste une dernière question, professeur Kofingoran. Quel est l'impact de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on les sent très présents? Et je sens que s'il viendra, vous avez peut-être envie déjà de dire quelque chose avant que je pose la question au professeur Kofingoran.
Moi, je pense qu'il faut saluer tous les efforts de la Côte d'Ivoire, du professeur, mais aussi
du ministère,
parce qu'ils sont confrontés à une avalanche, comme le Burkina et comme les autres pays, hein, de barrages de l'industrie du tabac. Et récemment, la Côte d'Ivoire est en train d'essayer de faire passer une loi qui était une très très bonne loi. On en avait revu des copies et refait des commentaires. Et là, elle doit passer au Parlement. On a juste un problème, c'est que les associations avec le ministère de la Santé avaient fait une présentation à l'ensemble des députés qui avaient bien compris le message, bonne préparation. Et la semaine d'après, l'industrie du tabac a réinvité tous les députés. Donc c'est une bataille
avec un peu plus de moyens financiers
avec
que vous,
plus de moyens financiers que nous et que le ministère de la Santé. Et il faut être vigilant parce qu'on sait que dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est une bataille interne. Et moi, je lance un appel pour le soutien du ministère de la Santé qui se bat à armes inégales sur ce sujet.
Et docteur Sylviane, pardon, si vous n'êtes pas médecin, Sylviane Rath, on voit souvent dans ces cas-là, je dirais un peu une bataille entre le ministère de la Santé qui est assez conscient des dangers et le ministère des Finances qui a envie de continuer à avoir des recettes venant du tabac. C'est ça, en gros, la bataille?
Oui, la bataille, c'est ministère du Commerce, ministère des Finances. Parfois, on a d'autres ministères de l'Industrie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que l'industrie du tabac parle à ses ministères, mais que personne d'autre leur parle sur le sujet du tabac et que le ministère de la Santé n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de temps. Avec l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, on essaie de les informer.
Une réaction, professeur Kofingoran?
Ah oui, c'est exactement ce que j'ai résumé tout à l'heure. Voilà. Il y a une réelle volonté politique. Mais l'autre message, l'autre constat que je voudrais peut-être faire passer, qui concerne les patients eux-mêmes, c'est que aussi à l'hôpital, de plus en plus, nous avons des patients qui présentent des pathologies liées au tabac. Et face à l'émergence de cette maladie, on n'est pas aussi bien équipé. D'abord, c'est une maladie coûteuse en termes de médicaments, d'absentéisme, et ainsi de suite. Et l'arsenal thérapeutique que nous disposons n'a pas toutes les chaînes. On n'a pas de centre de radiothérapie, on a un seul centre de...
En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes en train de voir les effets de l'augmentation de la consommation de tabac sur la santé, avec justement l'augmentation dont vous nous avez parlé, qui est frappante, hein, entre les années 70 à 10% et aujourd'hui à 22%. Merci beaucoup, professeur Coffin-Gorand, et bon courage pour vous battre contre l'industrie du tabac. On a Eric qui nous appelle de la région parisienne. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Eric.
Oui, moi, s'il faut parler de moi, en fait, moi, j'ai beaucoup fumé dans ma vie, mais je fume sans avoir envie. Donc, je ne sens pas d'addiction ou donc je n'ai jamais eu envie de fumer, en fait. Mais si je me retrouve devant des cigarettes, je peux fumer. Donc, je vivais en Asie, en fait, et là. J'arrivais à fumer jusqu'à 100 cigarettes par jour. Parce que ça coûte presque rien, c'est 50 cents, un paquet de 20 tiges.
Et arrivé en France, rentré en France, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, rentré en France, j'ai constaté que ça coûte super cher. Et je me suis dit, j'abandonne parce que de toutes les façons, je fumais sans avoir envie. Et j'ai arrêté sans problème, je suis à l'aise, je n'y pense même pas. Et quand je suis, par exemple, depuis les débuts, je vois que les gens ont du mal à arrêter. Et moi, j'arrête sans me poser des questions, sans procès. Et je me dis, docteur, est-ce que je suis normal?
Et c'est ça, vous vous inquiétez dans l'autre sens en disant, mais moi j'ai réussi à arrêter sans problème. Qu'est-ce qui se passe, professeur Martinet?
Oui, non, vous êtes normal, mais vous êtes une variété rare d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous identiques face à la nicotine. On a des récepteurs au niveau du cerveau. La très grande majorité d'entre nous est capable d'être dépendant. Vous, de ce que vous décrivez, vous ne l'êtes pas. Vous faites partie des 2 à 3% des sujets qui ne peuvent pas devenir dépendants à la nicotine. Mais ce qui est donc finalement pour vous c'est simple, vous avez de la chance, ne fumez pas, ne prenez pas ce risque puisque de toute façon, c'est pas vous pouvez vous en passer. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le prix a été un motif fort pour vous amener à arrêter de fumer, quelle que soit votre dépendance. Et ça c'est clair, c'est un des motifs, et parmi ceux qui sont les plus sensibles au prix, il y a les jeunes et puis il y a les classes socio-économiques défavorisées. Donc le prix, comme l'a dit Sylviane Rath tout à l'heure, les augmentations de taxes, parce qu'il ne s'agit pas de donner d'argent en plus à l'industrie du tabac, les augmentations de taxes sont efficaces, même si autour de nous on a des pays qui jouent un jeu trouble.
Voilà, donc ça marche et c'est important de le dire. Merci beaucoup Eric pour votre témoignage. On a Mahamat qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Mahamat, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute Mahamat.
Bon, ça fait il y a 12 ans de ça. Depuis 1997, j'avais fumé de la cigarette. Et j'ai arrêté de fumer en 2010. Ça fait 5 ans maintenant que je ne fume plus. Quoi.
Bravo. Bravo. Uh-huh.
Et il m'arrivait même de fumer 3 paquets de nuit par jour. Et avant même de me broquer les dents, j'allumais une clope pour fumer, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a dit? Alors vous vouliez réagir à ça, professeur
Martinet.
Oui, Martinet.
C'est
la
extrêmement
clope,
intéressant.
Même avant le...
En fait, quand on veut mesurer la dépendance, on utilise un test qui s'appelle le test de Fagerström, qui est un collègue suédois, mais peu importe. Et une des questions les plus importantes, c'est quel est le délai entre le réveil et le premier clope. Et si ce délai est inférieur à une demi-heure, alors vous êtes très, très, très dépendant. Et je connais des patients qui viennent pour arrêter de fumer et qui disent « Mais j'ai le paquet de cigarettes sur la table de nuit, je vous dis pas l'odeur dans la chambre. » Mais ça prouve que la dépendance est très forte, très violente, lorsque le délai est court entre le réveil et la première cigarette.
Donc chez Mahamat, cette dépendance était très forte. Il a quand même réussi à arrêter depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé d'ailleurs, Mahamat, d'un seul coup à arrêter ?
Bon, surtout, j'avais les amis aussi. Hein. Parce que j'avais un ami qui fumait lui aussi. Mais un jour, il a arrêté et il m'a demandé la même chose, quoi.
Et qu'est-ce qu'on vous disait autour de vous ? Mais tu vas pas être capable d'arrêter, c'est ça ?
Effectivement, c'est ce qu'il me disait tous les jours, quoi. Et c'est ce qui m'a poussé même à leur montrer que je pouvais de fumer, quoi.
Bonne motivation, voilà.
Oui,
professeur Martinet.
C'est un défi. Et vous pouvez être fier d'avoir réussi à remporter ce défi.
Merci pour ça. Oui, vous voulez réagir, Sylvie?
Non, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont appelé qu'il y a des millions de gens dans le monde qui ont arrêté de fumer. Donc ça, pour moi, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que on y arrive plus ou moins facilement et avec des. Mais tous les trucs sont bons. Essayez tout ce que vous pouvez.
Voilà, un jour ça marchera. Merci Mahamat pour ce témoignage. On a Antoine qui nous appelle de Clichy-sous-Bois en région parisienne. Antoine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors moi, mon problème, c'est que je ne fume pas. J'ai horreur de la cigarette. J'ai horreur de l'odeur de la cigarette aussi. Le problème, c'est que comme je suis obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer de temps en temps ou parce qu'il fait chaud, il y a pas mal de gens qui fument en dessous de chez moi et c'est toute la famille qui est en dessous de chez moi qui fume et ils ont même des amis qui fument aussi. Et le problème, c'est que dès que j'ouvre la fenêtre, j'ai de la fumée de cigarette qui rentre chez moi et ça me dérange ne serait-ce que par l'odeur. Et alors, est-ce que je risque quelque chose? Je pense que oui. Et comment je pourrais faire pour me débarrasser de ces odeurs de cigarette
de vos voisins du dessous? C'est ça. Alors Antoine, pour tout vous dire, j'ai le même problème que vous. Mon voisin du dessous fume et l'été où moi de manière très souvent j'ouvre les fenêtres même en hiver, mais l'été lui il les ouvre aussi et donc j'ai aussi l'odeur de cigarette qui me dérange. Alors Sylviane Rath, on fait comment?
C'est un petit peu difficile, mais bon, c'est comme toutes sortes de choses dans le voisinage qui nous importunent. C'est-à-dire que là, on est clairement votre espace privé contre l'espace privé de quelqu'un d'autre. Donc
il y a des immeubles aux États-Unis où il est interdit de fumer à cause de ça, justement.
Oui. Non, mais il y a aussi des propriétaires qui interdisent de fumer dans leurs appartements. Maintenant, j'ai pas bien suivi d'où vous appeliez.
Clichy-sous-Bois, la région parisienne.
D'accord. Donc là, vous êtes en France. Ce que vous pouvez faire déjà. J'imagine que vous avez déjà peut-être parlé à vos voisins.
Oui, Antoine, vous êtes allé voir vos voisins pour leur dire que ça vous gênait ?
Ben, je suis allé voir la personne, mais le problème, c'est que, apparemment, elle s'en fiche.
Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord. Donc, bon, c'est étape par étape, quoi. Donc, déjà, on va voir son voisin, on lui dit, voilà, ça me gêne. Ensuite, vous pouvez monter d'un cran. Si vous êtes locataire, vous pouvez en parler à votre propriétaire. Il y a des syndics aussi. En fait, c'est pas facile, pour vous le dire, parce qu'il n'y a pas de loi
qui interdit.
Qui interdise, à part dans les parties communes. Si les personnes fume dans les parties communes, là vous avez une possibilité. Mais si la personne fume chez elle, elle ouvre ses fenêtres, c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais faites évoluer le avec le syndic et votre propriétaire si vous êtes locataire.
Et après
c'est comme la nuisance avec le bruit et tout ça. Il faut se plaindre, faut porter plainte, quoi. Oui. Mais ça va un peu loin.
Voilà, professeur Martinet. Du coup, dans la question d'Antoine, il y en a une autre qui est celle du tabagisme passif. Effectivement, quels sont les risques pour la santé quand on est entouré de fumeurs?
Alors, le tabagisme passif, quand vous êtes dans une pièce et qu'il y a des gens qui fument ou dans un véhicule, eh bien, le risque, c'est essentiellement le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus, accident vasculaire cérébral. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de seuil ni de quantité d'exposition ni de durée d'exposition. Et dans tous les pays où il y a eu des interdictions de fumer dans les lieux publics, on a observé une baisse des hospitalisations de 10 à 15% hospitalisation pour infarctus. Donc c'est réellement dangereux, le tabagisme passif. Après, il y a le risque, si ce sont des expositions longues, il y a le risque de cancer du poumon. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'exposition aussi au tabagisme passif a un rôle important sur l'initiation au tabagisme des enfants. Longtemps, on a dit, les enfants fument parce que leurs parents fument. Ça, c'est vrai. Dans les familles de fumeurs, on fait des petits fumeurs. Mais on a dit, c'est dû au fait qu'ils voient l'exemple des parents qui fument. De plus en plus, il y a des publications qui disent, en fait, c'est parce que les enfants ont été exposés à la nicotine quand ils avaient 4, 5 ans, 6 ans, et qu'à partir de ce moment-là, leur cerveau qui est en formation a été primé, comme on dit, c'est-à-dire leur cerveau a été marqué par la nicotine, et quand ils arrivent à 13, 14 ans et ces premières cigarettes, ils sont déjà peu ou prou un peu dépendants. Donc voilà un deuxième risque du tabagisme passif, et si vous avez des enfants qui sont exposés au tabagisme passif, essayez d'utiliser cet argument.
Ce que j'entends en tout cas dans ce que vous dites, c'est que c'est quand même quand on est dans la même pièce, probablement un peu moins gênant quand c'est le voisin du dessous, où on est moins dans un univers clos et fermé, c'est presque plus une gêne d'odeur.
Alors, il y a... Non, parce que... d'abord, moi, je vais vous dire que moi, j'ai le problème...
Donc, Antoine, il peut aller voir son voisin en disant « Moi, je ne vais pas risquer une maladie cardiaque. »
J'ai le problème, mais c'est le voisin du dessus. Vous vous rendez compte, parce qu'on imagine ça monte, la fumée. C'est pas vrai, elle descend aussi quand il n'y a pas de vent.
Alors, si c'est grave, vous avez aussi un problème que le voisin qui fume ou pas.
Il est beaucoup plus bas, donc je vais pas vous embêter avec le mien.
Donc, on en a tous.
Donc, on a tous ce problème-là, et c'est un problème qui est extrêmement difficile à régler. Il n'y a pas de bonne solution. Et malheureusement, il faut dire qu'il y a des voisins qui sont... Par contre, si on fume dans les parties communes, Sylviane Ratte l'a dit, alors ça, c'est absolument intolérable.
Mais du coup, non, mais c'est intéressant ce qu'on soulève là, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est beaucoup à être gêné par ça. Est-ce qu'il faudrait aboutir à une interdiction de fumer dans les immeubles? Est-ce qu'en fait, c'est pas une des choses que vous prenez ou pas? Non.
Là, pour l'instant,
la bataille est grande.
C'est compliqué. Oui, parce que c'est là, on rentre vraiment dans la sphère privée. Et donc, moi, je pense que oui, ça va évoluer, mais quand on a 30% de fumeurs dans un pays, à un moment, il faut faire évoluer la réglementation. On a déjà un mal fou à faire respecter sur les terrasses.
Oui, c'est ça.
Des choses comme ça. Donc, moi, je pense que oui,
la négociation avec le voisin.
On va y arriver, mais en fait, il faut. Moi, je pense qu'il faut mobiliser les propriétaires et les syndics pour qu'il y ait un changement de règlement intérieur.
Professeur Martinet.
Moi, je pense aussi c'est que c'est une démarche qui doit être collective, c'est-à-dire de l'ensemble du pays. Quand vous avez 30% d'adultes qui fument, c'est entre guillemets normal pour certains, ils pensent que c'est
vous
normal
avez une chance
de
sur
fumer.
Trois d'avoir un voisin
à partir du moment où on est dans des pays, je suis désolé, je vais dire un gros mot, des pays qui sont peut-être plus intelligents que nous, comme par exemple la Grande-Bretagne ou la Norvège, où vous arrivez à moins de 20% en Grande-Bretagne, moins de 15% en Norvège. À partir de ce moment-là, fumer devient l'exception. Et la personne qui fume est consciente qu'elle impose aux gens qui l'entourent...
Et du coup, ça change le regard là-dessus.
Gêne, voilà.
En tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette intervention. On a James qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. James, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, James.
Oui, mon problème est... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est que j'ai arrêté de fumer il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai pris entre 27-30 kilos à peu près. Donc, j'ai pas du tout envie de recommencer. Sinon, mais je sais pas comment faire pour prendre, pour perdre du poids. Malgré tous les régimes que j'ai pu faire, j'ai toujours fait 30 kilos de trop.
Ouais, merci pour ce témoignage et cette question, James. Professeur Martinet, on a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent quand ils arrêtent de fumer, de grossir.
Oui, c'est une question assez difficile. Parce que il faut dire qu'on est, face à cette question, on est un peu...
Inégaux aussi. Et puis inégaux.
Et alors, on est parfaitement inégaux. Par contre, James, quand même, 25 kilos, vous êtes peut-être un peu lâché quand même, parce que c'est beaucoup. Et ce qu'on dit, nous, les choses simples, c'est que prendre 5-6 kilos après avoir arrêté de fumer, pour la santé, c'est beaucoup moins... c'est un risque minime par rapport à continuer de fumer. Et deuxièmement, ce qu'il faut, dans un deuxième temps, une fois qu'on a consolidé l'arrêt du tabac, c'est reprendre une activité physique et puis revoir peut-être un peu l'alimentation.
C'est ça hein, qui est important. Il n'y a pas de fatalisme là-dessus, mais c'est parce qu'on compense, en fait. L'arrêt de la cigarette fait qu'on a envie de sucreries, de chocolat, de boissons. Non, c'est ça.
Oui, c'est complexe. Il y a ce que vous décrivez, qui est le goût. On recherche des aliments un peu plus sucrés, un peu plus gras. Mais il y a aussi des phénomènes assez complexes au niveau du cerveau. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une fatalité non plus, et que dans un deuxième temps, en général, on arrive à se débarrasser du problème du poids.
Et j'ai entendu le conseil, faites du sport du coup pour éviter ça, ou en tout cas pour du coup après perdre du poids. Merci beaucoup James pour votre question. Une dernière question avec Ibrahim qui nous appelle de Paris. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Ibrahim.
Ouais, en fait, ouais, j'ai arrêté de fumer il y a 12 mois à peu près, 11 mois on va dire, et j'ai fumé pendant 25 ans. Et là, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à fumer, à utiliser de la cigarette électronique. et ça me va. Et à la base, je suis asthmatique. Et depuis que j'ai commencé à fumer la cigarette électronique, j'ai plus de crise d'asthme, mais pas du tout, quoi. Et là, j'ai changé de, comment dire, de d'addiction. Là, si j'arrête la cigarette électronique, c'est sûr que je vais retomber dans la cigarette normale.
Alors, c'est très intéressant votre question, Ibrahim, parce qu'on n'a pas encore parlé de la cigarette électronique pour arrêter.
Voilà.
C'est quand même une bonne chose, hein, professeur Martin.
Alors, ce qui est bien avec la cigarette électronique, c'est ce qu'a fait Ibrahim, c'est-à-dire arrêter complètement le tabac fumé.
Oui, il faut
ce
pas faire
est...
les deux. Hein.
Voilà. Mmh. Ce qui est pas bon et que ce soit clair avec la cigarette électronique, c'est de devenir un vapo-fumeur. C'est-à-dire réduire sa consommation de tabac, c'est-à-dire fumer 5-6 cigarettes par jour et vapoter en même temps. Pour la santé, c'est pas bon. Par contre, vous, vous avez arrêté de fumer, ça c'est parfait.
Maintenant, génial, et plus de crise d'asthme, donc ça prouve bien, c'est quand même intéressant.
Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire, ouais. ça a une conséquence, et en général, ça prouve que c'est mieux toléré que le tabac fumé. Après, prenez du temps, vous n'êtes pas pressé, vous allez pouvoir vous débarrasser de la cigarette électronique, vous n'avez pas utilisé cette espèce de joujou pendant encore 20 ans, vous allez vous en débarrasser, prenez du temps, vous utilisez quelle concentration de nicotine ?
Ibrahim, quelle concentration de nicotine ?
Je disais, donc, j'ai commencé avec du 16 mg il y a un an. Mais bon, c'était avec des cigarettes de base, cigarettes électroniques de base, mais bon...
Et vous êtes à combien aujourd'hui ? Parce qu'on arrive là, à la fin de l'émission.
Là, j'en suis à 6 mg.
Eh ben, c'est parfait. Continuez. Et puis, à un moment, vous mettrez votre cigarette dans un tiroir, électronique dans un tiroir.
Mais c'est
et vous serez libre.
J'ai pris goût, mais
c'est pas de souci. C'est beaucoup moins grave que la cigarette. C'est bien ce que j'ai compris. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Et bien sûr, à demain.